l'émission Écho de la solidarité internationale, présentée par la Maison des Tiers-Mondes et de la solidarité internationale.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir José Forneron du CCFD Terre Solidaire parce Bonjour. Que cette association va recevoir un partenaire bientôt. C'est une campagne d'ailleurs que vous pouvez suivre à la télévision. En ce moment, il y a beaucoup de spots consacrés au CCFD Terre Solidaire.
Oui, tout à fait. D'autant plus qu'on a modifié un petit peu notre sigle en faisant apparaître un peu plus gros, un peu plus gros Terre Solidaire, qui est un petit peu notre signature, disons, un peu plus modernisée.
Alors le CCFD, ce n'est pas la première fois qu'il vient sur les ondes de Radio FM+,
mais il faut peut-être
quand même rappeler à nos auditeurs que vous faites.
Voilà, il faut se souvenir que le CCFD est né en 1961 à la suite des réflexions de la FAO sur l'importance de la faim dans le monde. Et donc au départ, il s'appelait Comité catholique contre la faim, hein, puisque c'est au départ une association catholique. Et puis, par la suite, il a constaté que pour résoudre les problèmes de la faim, il fallait résoudre ceux du développement.
Et le D, c'était développement. Voilà.
Alors, le D est arrivé après pour montrer que le développement était nécessaire pour résoudre les questions de la faim. Voilà. Alors, ce CCFD Terre Solidaire, puisque c'est sur le Terre Solidaire qu'il faut bien mettre l'accent, s'appuie sur trois leviers, trois piliers, qui est celui du partenariat, qui est celui de l'éducation citoyenne à la solidarité internationale, et celui du plaidoyer. Donc aujourd'hui, c'est plutôt le côté partenariat que nous allons évoquer pour cette émission.
Alors il faut peut-être rappeler aussi que vous avez des projets partout dans le monde.
Oui, alors c'est donc en presque 60 ans d'activité, on a quelque chose pas loin de 600 à 700 projets que l'on appuie, mais que l'on ne décide pas. Hein. Ce sont des projets qui sont soutenus par le CCFD et d'autres associations, parce qu'on fonctionne rarement tout seul, et ceci dans à peu près 80 pays, sachant qu'il y en a grosso modo 200 dans le monde, donc ça veut dire à peu près un pays sur trois qui reçoit un soutien du CCFD.
Alors, pour l'organisation régionale, vous êtes aussi regroupé avec PACA et la Corse.
Alors oui, non mais ça c'est plus le cas maintenant. On a modifié en 2018 l'organisation et il a fallu reconstituer un petit peu les régions. Donc on a quitté un petit peu avec des plaisirs, mais il fallait le faire, le PACA, et que maintenant il y a une nouvelle région qui s'appelle Languedoc-Roussillon-Vaucluse, puisque le Vaucluse a quitté PACA et est venu nous rejoindre tout simplement parce qu'on avait une communauté. Donc on avait déjà l'habitude de travailler avec le Gard et le Vaucluse, et maintenant on travaille avec l'Aude et les PO.
Ah oui, alors là c'est nouveau.
C'est nouveau, mais bon, c'est un petit peu des choses que l'on met en place. Donc on a modifié un petit peu l'organisation et le fonctionnement aussi, voilà.
Parce que vous alliez quelquefois renforcer des manifestations importantes à Marseille.
Voilà, mais bon, mais là ça sera différent. Hein, donc Montpellier, d'une certaine façon, est à peu près le point central, puisque entre les PO et le Vaucluse, on est à peu près au milieu. Alors pour le moment, c'est encore en devenir, hein, puisqu'on a eu qu'une première rencontre régionale en octobre dernier, mais voilà.
Alors, affaire à suivre, en effet.
Affaire à suivre, tout à fait.
Et pour vous, nouveaux partenaires.
Nouveaux partenaires, mais c'est pas désagréable de trouver des gens qui fonctionnent un petit peu différemment, parce que chacun a sa façon de faire. Et donc, bon, peut-être que si on est toujours avec les mêmes, on a un certain ronron. Et en même temps, c'est un peu dommage d'avoir quitté des amis, mais on garde de bons liens avec eux, donc c'est pas vraiment un problème.
Alors, pour le CCFD, vous êtes bien implanté dans l'Hérault.
Alors, on est on est bien implanté dans l'Hérault, oui, puisque nous sommes un petit peu situés partout, donc quand même. Le gros de nos troupes se situe autour de Montpellier, donc on fonctionne par un système qu'on appelle des équipes locales, mais il y a des équipes aussi qui sont dans l'arrière-pays, etc. Donc on a
Clermont-l'Hérault, vous avez une équipe importante.
À Béziers, il y a de temps en temps des petits événements, à Frontignan, on a des dans le nord de Montpellier, donc on a grosso modo une douzaine d'équipes qui fonctionnent et qui agissent dans leur coin et puis qui ensuite viennent nous livrer ce qu'elles ont fait. Donc ça nous donne mutuellement des idées.
Alors vous avez aussi des rencontres régionales, bien sûr.
On a des rencontres régionales. Alors comme je disais, elles sont nouvelles maintenant. Voilà. Oui. Et donc c'est l'occasion de partager un certain nombre de choses. Et notamment, on partage toujours, et c'est ça qui fait la nouvelle structuration, on partage la présence des partenaires qui viennent nous visiter chaque année.
Alors, c'est la période du carême et pour vous, une période très active.
Oui, alors c'est important pour nous parce que c'est la grande période, même si on fonctionne toute l'année, parce que c'est le moment où on fait appel aux dons, puisque c'est essentiellement les dons qui font fonctionner le CCFD. Donc, c'est au moment du carême où, selon la tradition chrétienne, il s'agit de faire des efforts, un petit peu de penser aux autres, de dire bon, mais le carême, c'est quelquefois associé à l'idée du jeûne ou de comportements alimentaires différents, en disant mais pourquoi pas, puisque vous faites des efforts en ce sens-là, aller au secours des gens qui en ont besoin. Donc c'est pour ça que on évoquait tout à l'heure les affiches nombreuses que l'on peut voir. C'est une façon de récupérer de l'argent qui aidera à financer des projets.
Donc appel aux dons, appel à se mobiliser pour la lutte contre la faim.
C'est la lutte contre la faim et surtout, essentiellement, finalement, c'est la lutte pour le développement qui est l'instrument essentiel pour lutter contre la faim.
Alors, vous avez rappelé, pour vos projets partout dans le monde, que vous aidez les populations à construire des solutions durables, c'est-à-dire adapter leur culture au changement climatique, développer des techniques d'agriculture naturelle comme l'agroécologie et lutter contre la déforestation des zones détruites par l'agro-industrie.
Tout à fait, parce que on est dans une période où tout s'est tourné vers la mondialisation, où le pouvoir est passé dans les mains de ce qu'on appelle l'agro-business, c'est-à-dire des multinationales qui ont pour objectif c'est de produire d'une façon énorme et surtout d'accaparer un petit peu les marchés. Donc c'est là qu'on voit apparaître les notions d'OGM, les notions d'accaparement des terres, etc. C'est dans ce sens-là que nous battons pour la petite paysannerie, pour des solutions locales et pour essayer de les aider à solutionner toutes ces questions-là.
Et notamment, puisqu'on vient d'avoir la marche sur le climat, vous avez rappelé aussi à vos adhérents que le changement climatique est une tragédie pour les plus vulnérables, notamment les enfants, qui sont plus fragiles face à la faim, à la sous-nutrition, à la malaria, à la diarrhée, et qui représentent 80% des décès liés aux impacts du dérèglement climatique.
Voilà, et on est très soucieux sur les années à venir pour lesquelles cela va devenir crucial. Donc, c'est plus tellement tout à fait la question de va-t-on trouver de la nourriture pour tout le monde. Je crois qu'on peut l'imaginer. Le problème, c'est comment acquérir cette nourriture, et c'est le problème finalement de la pauvreté et puis des zones qui se désertifient ou des zones qui souffrent de la pollution ou du climat et pour lesquelles il faut absolument faire quelque chose et non pas se dire mais non, ça va s'arranger, c'est rien du tout, c'est un mauvais moment passé.
Voilà, donc un souci tout à fait actuel. Vous avez apporté une musique, de quoi s'agit-il?
Alors, comme on va l'évoquer dans quelques minutes, on va parler d'Afrique du Sud, on a choisi un premier morceau qui s'appelle Pata Patak, d'une jazz woman africaine, Myriam Makeba, qui dans les années 50 et jusqu'à sa mort il y a une dizaine d'années a beaucoup œuvré pour le parler de l'Afrique du Sud à un moment où la situation était très compliquée, et puis surtout quelqu'un qui a œuvré aussi pour le retour de l'indépendance quelque part, et donc de Nelson Mandela. Donc c'est peut-être quelque chose d'ancien, mais voilà. Alors le pata pata, c'est une danse qui se pratiquait à Johannesburg.
Écoutons. Alors, dans le cadre justement du thème « Pour vaincre la faim, devenons semeurs de solidarité », vous allez recevoir une partenaire d'Afrique du Sud.
Voilà. Alors, comme chaque année, c'est une façon de montrer aux donateurs dont on parlait tout à l'heure que les sommes qu'ils ont fournies au CCFD servent à quelque chose. Donc, on fait venir le représentant ou un représentant d'une association que l'on aide. Et donc, il y a des thèmes un petit peu partout, dans toutes les régions. Il commence cette semaine, tous les partenaires un petit peu du monde entier se retrouvent à Paris cette semaine, avant d'être dirigés vers les régions dans lesquelles ils vont parler. Alors, nous avons choisi cette année quelqu'un qui pourrait nous parler d'agroécologie et nous parler de la condition particulière des terres en Afrique du Sud. Et donc, nous avons choisi un partenaire qui vient d'Afrique du Sud. Alors, peut-être deux mots d'Afrique du Sud, savoir que c'est un pays qui est grand comme deux fois la France, un peu plus même, qui est peuplé d'à peu près la même population, un peu moins qu'en France, que 80% sont des Noirs, 10% des Blancs, et puis des Métis et des Indiens. C'est un pays où on parle quand même 34 langues, hein, et il y a quand même 11 langues officielles. Alors ça doit pas être évident à gérer, et puis surtout il y a un passé historique tout à fait lourd. Alors on a fait appel à une personne dont on va dire quelques mots bientôt, une représentante d'une association qui s'appelle SPP, hein, qui est donc Surplus People Project, voilà, qui est une association qui essentiellement fonctionne sur Johannesburg, sur le Cap, pardon, hein, puisqu'il y a plusieurs grandes villes, mais cette association fonctionne sur le Cap, qui est la partie la plus au sud, hein, le Cap, oui, de Bonne-Espérance, voilà. Et donc, il travaille sur les questions d'agroécologie, il travaille sur les questions des terres, et il travaille sur la question des femmes.
Et la souveraineté alimentaire.
Et bien évidemment, tout ça pour la souveraineté alimentaire, parce que il y a toute une partie de la population qui est privilégiée, mais l'essentiel, disons, de la population est dans de grandes difficultés. Et comme On le sait un petit peu partout, on a les, ce qu'on appelle les, l'exode rural, c'est-à-dire que devant les difficultés à la fois pour produire à cause des difficultés climatiques, les gens quittent les campagnes pour essayer de mieux vivre en allant en ville, mais ce qui n'est pas forcément la meilleure des solutions. Donc on va retrouver dans les grandes villes et les moins grandes villes, on va retrouver beaucoup de ruraux qui arrivent et qui cherchent à disons, pour survivre, à pratiquer encore un petit peu une agroécologie, une agriculture de petits paysans, avoir des jardins familiaux, des choses comme cela. Mais c'est très, très, très compliqué parce que...
Il n'y a plus d'espace.
C'est-à-dire que les grandes propriétés étaient aux mains des Blancs. Les propriétés qui restaient sont des propriétés communales. Et donc, il n'y a pas de titre de propriété précis. Et les villes et les communes ont tendance à privilégier des projets un petit peu différents, des projets concernant l'urbanisation. Hein. On est, par exemple, dans cette ville du Cap, tout à fait en proie à ce qu'on appelle la gentrification. C'est-à-dire le fait que ces villes sont de plus en plus pour des personnalités un petit peu huppées sur une certaine élite. Et donc avoir des gens qui sont de conditions difficiles, c'est un petit peu gênant. Donc on fait beaucoup de choses en faveur d'une certaine catégorie de la population, on oublie les autres. Et des associations comme SPP sont là pour dire, mais attention, il y a des gens pour lesquels il faut faire des efforts, il faut leur fournir de quoi produire dans des petits jardins, où il faut peut-être soutenir les femmes. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans ce projet, c'est qu'on considère que ce sont les femmes qui vont être les moteurs de ce changement, de cette amélioration de la condition des Sud-Africains du Cap.
Alors, c'est justement la partenaire qui vient est une femme.
C'est une femme qui a une trentaine d'années et qui est donc travaille dans les milieux sociaux. Elle s'appelle José Hélène. Alors José, c'est un prénom, si vous voulez, qui est chez nous plutôt un prénom masculin, mais qui
vôtre, d'ailleurs.
Voilà José Hélène Pic, voilà, qui est une travailleuse sociale et qui va être là pendant quelques jours chez nous. Et une chose intéressante la concernant, c'est que elle est venue en France, elle a participé à la COP21. Donc elle a cette dimension, je dirais, écologique qui montre bien que l'écologie n'est pas forcément un intérêt pour les pays riches, mais que des pays comme ça ont tout à fait intérêt à s'intéresser à cette chose-là. Voilà.
Oui, ils ont même un problème même beaucoup plus aigu souvent.
Et oui, parce que il y a eu des. Alors on l'a évoqué à plusieurs reprises. On a déforesté, on a fait des choses tout à fait dangereuses pour l'agriculture. Et notamment, ils combattent aussi le poids que constituent les sociétés internationales en matière d'OGM, en matière de disons d'engrais, etc. Donc c'est un combat tout azimut, mais toujours destiné à la grande majorité des Noirs qui souffrent beaucoup de ces questions-là.
Il y a toujours ces grands bidonvilles.
Toujours les grands bidonvilles. Donc notre partenaire travaille dans les bidonvilles autour du Cap. Hein. C'est là où le travail est à faire. Et en même temps, ils sont confrontés à des mouvements politiques un petit peu contraires, puisque on a vu qu'il n'y a pas énormément de blancs, mais c'est une espèce d'alliance entre les blancs, les métis, les indiens qui a tendance à vouloir prendre le pouvoir et considérer que les populations noires, elles ont ce qu'elles ont, c'est déjà bien, mais que si on a besoin des terres, dans la mesure où ce sont des terres municipales, on peut les récupérer pour des projets qui ne profiteront finalement qu'à une toute petite partie de la population.
Oui, donc beaucoup de travail à faire depuis que Nelson Mandela est parti.
Et oui, parce que c'est un personnage dont le charisme était extraordinaire et qui arrivait à faire un petit peu tout ce qu'il voulait. Il arrivait à convaincre tous les milieux. Maintenant qu'il n'est plus là, les successeurs n'ont pas forcément réussi à endosser ses habits d'une façon plus correcte et c'est un petit peu plus compliqué. Donc c'est ces partis qui regroupent les noms, je dirais les noms noirs qui sont finalement détiennent un petit peu les règles du jeu.
Alors qu'ils sont minoritaires,
mais enfin bon, voilà.
Alors écoutons la musique que vous avez apportée à nouveau.
On va toujours rester en Afrique du Sud, avec un morceau de Johnny Clegg. Johnny Clegg, c'est un Anglais d'origine, mais qu'on appelle le Zoulou Blanc, qui est quelqu'un qui a défendu la cause de Nelson Mandela. Et le morceau qu'on va écouter, ça s'appelle Asi Bonanga. C'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu il y a une vingtaine d'années, puisque c'était une chanson pour réclamer le retour de Nelson Mandela. Donc Johnny Clegg, Asi Bonanga.
Asi bonango Mandela tina la pekona la pefeli kona
Asi bonanga
Asi bonango Mandela tina la pekona la pefeli kona.
Alors, votre partenaire va arriver dans la région le 22 et rester jusqu'au
23. Voilà. Même elle part le 24 pour être plus précis.
Et elle sera en France jusqu'au 7 avril.
Oui. Alors, justement, ensuite, quand elle aura quitté l'Hérault, elle partira dans le Vaucluse et puis ensuite ira vers les PO et l'Aude. Donc, c'est une circulation régionale.
Donc,
alors il y a trois grands rendez-vous. Elle arrive, enfin donc ouvert au grand public. Elle arrive donc le vendredi 22, hein, vendredi qui est de cette semaine. Le lendemain, elle aura la possibilité. Alors, on lui fera faire des visites puisque l'occasion est disons, d'échanger un petit peu sur nos pratiques mutuelles. Mais là, c'est pas ouvert au grand public. Donc, il y aura une première rencontre, ce qu'on appelle une soupe du partage, hein, quelque chose d'un repas très léger avec, un repas débat quelque part à 19h30 à l'église Don Bosco. Hein, donc au centre-ville. Donc c'est ouvert à tous ceux qui veulent bien évidemment venir. Hein, donc ils partageront un petit quelque chose, mais voilà. Alors ça devrait véritablement, la conférence devrait durer de 20h jusqu'à au maximum 22h. Le lendemain, le dimanche 24, elle rencontre des scouts à Jacou, hein, donc à la, au centre œcuménique. Donc vous savez que les scouts en général ont des projets de par le monde, donc je ne connais pas leur projet exact, mais justement ils ont le souci d'aider les gens à l'autre bout du monde, et donc ça sera l'occasion de discuter un petit peu avec eux. Donc là c'est pas forcément grand public, mais enfin c'est intéressant. Et à 11h, donc il y aura une possibilité d'échange avec justement José Hélène qui est donc cette partenaire sur les questions. Alors on a l'envie, mais peut-être que le débat portera pas forcément là-dessus, de travailler sur la question des terres, puisque c'est une question cruciale finalement, la possession des terres. Et le dimanche après-midi, elle donnera une. Donc ce sont les trois rendez-vous, le samedi soir à Don Bosco, le centre œcuménique le dimanche matin, et l'église Saint-Paul à la Paillade le dimanche après-midi. Alors le vendredi, le lundi, elle rencontrera aussi, mais là c'est pas ouvert au public, les lycéens du lycée Bonterre à Pézenas, et elle échangera un petit peu avec eux, oui. Voilà. Et en attendant, au passage, elle aura visité l'association Les Champs Rouges, hein, des gens qui font des jardins partagés, voilà. Et puis ensuite, on la mettra au train et elle partira dans le Vaucluse.
Alors, elle visitera des jardins partagés
À la Vérune, voilà, oui. Donc, justement, pour qu'elle puisse se raconter un petit peu, quand elle rentrera chez elle, comment fonctionnent les jardins partagés en France.
Eh bien, merci José. Je vais donc passer au calendrier qui est très chargé, on peut dire, puisque pour nos associations... Mercredi 20 mars à 18h30 à la salle de conférence de la rue des Augustins à Montpellier, il y aura la projection du film Checkpoint 36, suivi d'échanges et de témoignages de deux jeunes Palestiniens de Youth Against Settlements, qui est une organisation de jeunes d'Hébron en résistance contre les colonies et qui lutte pour obtenir la réouverture de la rue Shahada au cœur de la ville d'Hébron. C'est organisé par la FPS 34. Le jeudi 21 mars, de 19h30 à 22h30 à Vic-la-Gardiole au Maneuf, 20 chemin de la Poule d'Eau, c'est une soirée de gala de Pour un sourire d'enfant, en présence de Frédéric Lopez et de Patrice Lecomte. C'est un dîner exceptionnel de gala qui est assuré par le traiteur Cabiron, et la soirée sera animée par un groupe d'étudiants de Business School, une participation pour une table de 10 couverts pour les entreprises est possible, ou bien 150 € par couvert pour les particuliers. Le contact est sur le site de Pour un sourire d'enfant, languedoc@pse.org, ou bien au 06 07 37 46 52. Vendredi 22 mars à 20h30 au temple 25 rue Maguelone, il y a aussi, au profit de Pour un sourire d'enfant, un concert caritatif rassemblant des artistes et un chœur au style bien différent. En première partie, Voix à tous les étages, et en deuxième partie, Les Sweeties et Lionel Licini. Je rappelle que Pour un sourire d'enfant, œuvre pour l'éducation des enfants défavorisés de Phnom Penh, et c'est organisé par le groupe Alpha de Montpellier Business School. Vendredi 22 mars à dimanche 24 mars, c'est Solidart, le salon solidaire d'art contemporain qui réunit 70 artistes, salle Pagési, 1 place Francis Ponge à Montpellier. C'est organisé par la Fédération de l'Hérault du Secours Populaire au profit des journées vacances pour les enfants. Et il est parrainé, ce salon d'art contemporain, par Hervé Di Rosa, Jeff Aérosol, Francis Boiron, Charles-Élie Couture et Mist. Le dimanche 31 mars à 17h, Au Théâtre d'Eau aura lieu aussi un concert par l'Orchestre universitaire de Montpellier au profit du Secours populaire. Enfin, le samedi 30 mars, je le rappelle et on en parlera plus longuement lundi prochain, la MTMSI fête son 30e anniversaire. Dimanche 31 mars aura lieu à 10h au Jardin du Pérou un rassemblement « Mobilisons-nous pour Gaza, levée du blocus, halte au massacre, sanctions contre Israël ». En effet, le 30 mars, on fête la journée de la Terre en Palestine et c'est le premier anniversaire de la courageuse marche du retour des Palestiniens de Gaza. Ce rassemblement est à l'appel de AFPS 34. Nos partenaires nous lancent aussi des invitations pour cette semaine. Ce lundi, aujourd'hui, à 19h à la Carmagnole, un film « The Lab, vendeur de guerre » sur l'industrie militaire israélienne qui est présenté dans le cadre de la Semaine internationale contre l'apartheid israélien. Donc, à 19h à la Carmagnole, 10 rue Haguenau. Et puis demain, mardi 19 mars, de 9h à 16h30, à Montpellier Supagro, Amphi l'Amour, c'est le colloque des chartes au label « Construire et rendre visible la qualité agroécologique ». C'est destiné à un public large, professionnels des filières, chercheurs, étudiants, associations, consommateurs. La participation est gratuite, mais l'inscription obligatoire. Vous pouvez contacter Mathieu Bayot au 04 99 61 25 20. Également ce mardi 19 au cinéma Utopia à Montpellier, c'est la projection de Fukushima, le couvercle du soleil, suivi d'un débat avec Colin Kobayashi, qui est journaliste, réalisateur du Forum social mondial antinucléaire. Et c'est organisé pour le 8e anniversaire de la catastrophe, en partenariat avec Arrêt du nucléaire 34. Puis le mercredi 20 mars, à la salle Pagési à 18h30, 1 place Francis Ponge à Montpellier, c'est « Quelles actions collectives face aux changements à venir ?» Donc, il y aura de nombreux intervenants, dont Juan Branco, journaliste et écrivain, Vincent Mignereau, président d'honneur d'Adrastia, c'est le comité de collapsologie française, Emmanuel Regot, maître de conférence en sciences politiques à Montpellier, qui est spécialiste de l'action collective et de ses acteurs, Marie-Noël de Vichère, chercheuse agronome, présidente d'Alternatiba Montpellier, et c'est organisé par Nouveau Monde, Alternatiba, On remet ça pour le climat, Démosphère et I Boycott Montpellier. Voici tout ce programme, donc, et je rappelle aussi que c'est la semaine de l'environnement qui commence le 22 jusqu'au 27. À bientôt, chers auditeurs.